Le Père Gilles Drouin d'être avec nous ce soir. Il a plusieurs raisons d'être là. La première, vous l'avez déjà mentionné, c'est la grande compétence du Père Drouin en liturgie. Il enseigne à l'Institut catholique de Paris, comme ce fut le cas du chanoine allemand lui-même. Mais il y a une autre raison de venir, je pense, pour le Père Drouin, c'est que le chanoine allemand était chanoine de Reims, mais aussi Notre-Dame de Paris. Donc, c'est le cas aussi du Père Drouin, qui a été intégré à l'Auguste Collège en raison des services importants qu'il a rendus à l'occasion de la restauration de Notre-Dame et du réaménagement intérieur que nous admirons tous depuis maintenant un an et demi, avec bonheur. Donc, merci beaucoup, Gilles, d'être là. Vous avez deux Gilles.
Oui.
Voilà, face à vous. C'est une joie pour moi de voir rééditer ce petit livre du chanoine allemand, Bienfaits spirituels de la liturgie romaine de la messe. C'était le premier titre du livre, aujourd'hui Bienfaits spirituels de la liturgie romaine actuelle. C'est un livre auquel je suis particulièrement attaché parce que ce fut ce livre qui m'a fait non pas découvrir le chanoine allemand, j'avais déjà lu quelques pages de lui, mais où j'ai compris qu'il y avait là un enseignement d'une valeur exceptionnelle et qui a quelque chose de tout à fait particulier à nous apporter. Alors, relativement à la liturgie, relativement au renouveau instauré par le Concile Vatican II au XXe siècle, mais plus profondément aussi pour ce qui nous dit de la vocation chrétienne. Le chanoine allemand était convaincu que il n'y avait rien de plus urgent aujourd'hui que de rappeler aux chrétiens leur vocation. Et leur vocation, c'était dans la joie de la Trinité Sainte. Un ouvrage a été publié de lui qui reproduit un certain nombre d'entretiens sur la Trinité et l'ouvrage est intitulé La Trinité, mystère de la joie chrétienne. Et pour le chanoine allemand, toute la mission de Jésus au milieu de nous, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a souffert pour nous, était pour nous introduire dans ce mystère de la Trinité, pour que nous y participions. Et c'est là la vocation particulière du chrétien, mais c'est aussi la destinée qui s'ouvre à tout humain. Donc le chanoine allemand était particulièrement habité par ce désir, grand désir, de souligner la dimension surnaturelle et théologale de la vie chrétienne. Nous avons dit que, Jean-Louis nous l'a dit en introduction, que cette soirée est un peu particulière si on la compare aux soirées précédentes qui avaient un tour plus philosophique. Là, il s'agit de théologie et même il s'agit de pastorale, mais ce que le chanoine allemand nous dit de la liturgie nous renseigne aussi sur la motivation la plus profonde chez lui de son enseignement à l'Institut catholique de Paris, comme le faisait remarquer son grand ami Jacques de Montléon, le chanoine allemand enseignait des parties de la philosophie, lui-même ne se serait peut-être pas présenté comme philosophe, en ce sens que le but immédiat qui était le sien, je dis immédiat parce que il le rappelait de cours en cours, c'était de montrer la portée spirituelle de l'approfondissement de l'enseignement d'Aristote ou de Thomas d'Aquin, la portée spirituelle d'une certaine métaphysique qui nous donne les moyens, nous équipe pour que nous comprenions l'importance de la contemplation et pour que nos études se greffent sur cette recherche contemplative de la vérité. Le chanoine allemand est une personne qui ne laissait pas indifférent. Même ceux qui ont pu se sentir en désaccord avec lui ont souligné qu'il leur avait apporté quelque chose de tout à fait décisif dans leur vie. Je pense à un certain nombre d'enseignants en Institut catholique de Paris et où je pense à des personnes comme le cardinal Lustiger, qui a été son étudiant, ou encore parmi les dominicains, le père Bernard Braud. On ne manque pas, çà et là, de trouver des portraits toujours haut en couleur du chanoine allemand. Dont on souligne à la fois la profondeur de l'enseignement, mais aussi ce caractère un peu rugueux, parfois abrupt. Il était convaincu qu'il lui fallait défendre la vocation surnaturelle du chrétien contre une tendance qui, pour lui, était une tendance de fond de la culture moderne et contemporaine, mais qui menaçait aussi l'Église dans ce qu'il appelait le néo-christianisme, celle de ce que je qualifierais aujourd'hui plutôt que d'humanisme, comme il le disait lui-même, d'anthropocentrisme. Alors aujourd'hui, 20 ans après, enfin pas 20 ans après, je dis 50 ans après, critiquer un certain anthropocentrisme, c'est devenu à la mode hein, dans le contexte écologique qui est le nôtre. L'anthropocentrisme qui était dénoncé par le chanoine allemand, c'était celui de l'Action française et d'un intégrisme qui a succédé à l'Action française. Il a participé à cet ouvrage collectif fameux. Qui s'appelait Spirituel d'abord, hein, et qui, avec des auteurs comme Jacques Maritain, montrait les raisons que l'Église avait eues de condamner le mouvement de l'Action française. Donc, c'était à la fois ce penchant intégriste qu'il pouvait rencontrer dans l'Église catholique, et puis d'autre part, le progressisme et le marxisme sur lequel il pouvait s'appuyer, qui, au fond, à ses yeux, étaient l'un et l'autre des anthropocentrismes qui privaient l'homme de la finalité réelle qui était la sienne, celle de contempler les réalités divines et, en définitive, d'entrer dans la joie même de Dieu. Ce qu'il proposait comme alternative, je dirais, à l'anthropocentrisme, ça n'est pas ce que beaucoup proposent aujourd'hui, qui est plutôt un écocentrisme, où on va dire que le milieu naturel est plus important que cette partie peut-être insignifiante qu'est l'homme, mais ce qu'il plaçait au cœur de la réalité, c'était le mystère même de la communion. Communion trinitaire et communion à laquelle nous sommes toutes les créatures, mais l'homme au cœur de la création appelé. Alors, qu'est-ce qui faisait de l'enseignement du chanoine allemand un enseignement assez particulier et à mon regard, pour moi, à mon avis, assez exceptionnel, c'était à la fois cette conviction forte qu'il avait de la finalité contemplative, surnaturelle, théologale, qui est la nôtre. Et puis d'autre part, à l'école d'Aristote et de Saint Thomas, dans un thomisme traditionnel qui souligne la continuité qu'il y a entre Aristote et Saint Thomas, une approche qui est toujours extrêmement rigoureuse, éprise de distinction et d'ordre, dans le vocabulaire, le lexique qui est celui de la tradition thomiste, on dit très, très formelle, pas au sens où elle serait conformiste, mais au sens où on précise bien de quoi on parle et on se tient à l'objet de la réflexion. On peut dire que, par ailleurs, le chanoine allemand, sous une écorce rude, un homme qui était irascible, qui s'en excusait parfois, qui en a parfois demandé pardon, malgré son intransigeance philosophique, son intransigeance théologique, était un homme que ceux qui l'ont rencontré et ceux qui l'avaient choisi comme accompagnateur, père spirituel, disent être un homme de grande bonté, de grande ouverture. Toutes les personnes que j'ai encore eu la chance de connaître et qui l'avaient fréquenté soulignent cette bonté foncière. Alors, quelques mots avant d'entrer dans la question même qui nous réunit aujourd'hui et qui fait le thème du livre Bienfaits spirituels de la liturgie romaine, sur ce qu'il faut entendre par contemplation. Voilà un mot que l'on trouve chez Aristote, voilà un mot que l'on retrouve dans la tradition spirituelle, c'est ce qui va nous faire comprendre comment l'étude de Saint Thomas, de la tradition thomiste et aussi de la philosophie. Le chanoine allemand a présenté beaucoup de philosophes, pas seulement médiévaux, mais aussi modernes et contemporains à ses étudiants. Comment donc un approfondissement philosophique peut servir un discernement spirituel et théologique. Donc la contemplation, c'est l'idéal des philosophes, en tout cas c'est cette vie quasi divine dont Aristote parle dans l'Éthique à Nicomaque, si elle se porte sur si cette contemplation se porte sur les réalités suprêmes de Dieu, etc. Mais pour Aristote, pour les philosophes grecs, même si cette finalité contemplative de la vie humaine, elle rejaillit sur toutes les activités de l'homme, sur la conception qu'on peut en avoir, la vie proprement contemplative, elle est réservée à une petite élite. On peut dire que l'Évangile, dans la mesure même où il nous appelle tous à devenir les amis de Dieu, fait de tous des contemplatifs, et même dans un certain sens des mystiques. Aristote, il faudrait ajouter pour comprendre ce que signifie la contemplation dans la tradition spirituelle du christianisme, quoi qu'il faudrait ajouter l'enseignement de Jean Cassien. Jean Cassien, donc, c'est un auteur qui nous a transmis l'enseignement des pères du désert. Les pères du désert auxquels le chanoine allemand était particulièrement attaché. Il a écrit un ouvrage qui a été republié sous le beau titre L'estime fraternelle de la vocation érémitique dans l'Église. Jean Cassien, dans la première de ses conférences, réfléchit à ce qu'est la finalité de la vie du moine. Il dit, bon, comme tout chrétien, sa finalité, c'est la vie éternelle, c'est le royaume de Dieu. Mais quelle doit être, dès ici-bas, dès maintenant, sa visée? À quoi doit-il s'attacher pour un jour accéder au royaume qui lui est promis. Et Jean Cassien dit, eh bien, il doit s'attacher à la pureté de cœur, parce que la pureté de cœur va en faire un contemplatif. La contemplation, en fait, pour Jean Cassien, c'est le regard qu'un cœur pur pose sur les réalités divines. Alors, ça peut sembler quelque chose de très éloigné de nos pauvres vies, mais pour le dire plus simplement, la contemplation, ça n'est pas une méthode très compliquée, ça n'est pas une ascèse inhumaine qui nous y conduit. Non, finalement, la contemplation, c'est la qualité du regard que nous posons sur le réel. La contemplation, c'est s'attacher aux êtres et finalement s'attacher à notre prochain et s'attacher à Dieu lui-même pour ce qu'ils sont et en faire sa joie de l'autre et faire sa joie aussi de la beauté du monde que nous habitons. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Mais si c'est aussi simple, est-ce que nous ne l'oublions pas trop souvent? Et pour le chrétien, la contemplation, c'est aussi s'attacher dans une recherche de la vérité à la révélation. La révélation, elle nous parle de l'histoire du salut. Et c'était une des intuitions profondes du chanoine allemand, et un peu étonnante, très originale, je crois, que de dire que tout l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, l'enseignement théologique de saint Thomas d'Aquin, était en fait centré sur la miséricorde, sur l'amour miséricordieux de Dieu. Et qu'être contemplatif pour saint Thomas, finalement, c'était contempler l'amour miséricordieux de Dieu. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. On aurait pu s'attendre. Je vais parler maintenant de notre sujet, celui de la liturgie, puis on va échanger avec le père Drouin sur l'apport du chanoine allemand à ce sujet de la liturgie. On aurait pu s'attendre que, au début des années 60 après 1965, lorsque les textes du Concile Vatican II ont été diffusés, et quelques années après, lorsque la réforme liturgique souhaitée par le Concile a été mise en place, on a pu s'attendre qu'un homme aussi traditionnel, aussi rigoureux, aussi attaché à la philosophie et la théologie scolastique, soit désemparé. C'était déjà un vieux prêtre, hein, et qu'il a un peu de mal à la fois à recevoir l'enseignement d'un concile qui avait beaucoup insisté sur le service de l'homme, sur la position humble pauvre qui devait être celle de l'Église dans le monde de notre temps. Donc sur l'enseignement du concile, on peut être désemparé, a fortiori pour la liturgie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'était un homme très obéissant, donc bon, il n'a pas beaucoup de risques qu'il se cabre, mais ça a été tout le contraire, tant pour les textes du concile que pour la nouvelle liturgie, notamment la nouvelle liturgie de la messe. Il a reçu, on peut dire vraiment, émerveillé. Pour lui, c'était un. Il disait que le Concile Vatican II était peut-être le concile le plus important de l'histoire de l'Église et que ce qui nous donnait dans la liturgie renouvelée, c'était un trésor pour notre vie spirituelle et un trésor particulièrement adapté aux besoins de notre temps. Parce que justement, il disait, le Concile et la liturgie du Concile l'exprimait, que il nous a rappelé de façon lumineuse quelle était notre vocation, pas seulement celle d'être des personnes généreuses, pas seulement celle d'une philanthropie vague, mais que nous étions appelés au partage de la vie même de Dieu. Alors, comment est-ce que le chanoine allemand l'a-t-il montré dans la lecture qu'il propose de la messe? Il y a vraiment consacré les 10 dernières années de sa vie, hein, montrer l'importance du concile, montrer la beauté et la profondeur de la liturgie de Vatican II. Il a montré dans de nombreux entretiens et nous en avons dans le groupe scolaire étudié un certain nombre entre nous. Certains d'entre vous y ont participé. Le petit livre qui a été, petit par sa taille, mais grand par son contenu, le petit livre qui a été édité, Bienfaits spirituels de la liturgie romaine actuelle, ne correspond qu'à une petite partie de son enseignement. Mais je vais aujourd'hui me concentrer sur, me limiter aux choses essentielles qu'il nous dit dans cet ouvrage. D'abord, j'espère pour vous en montrer tout l'intérêt, et puis en terminant par, mais ça je l'ai déjà fait dans un petit groupe de travail, par ce que je considère un peu comme disons une limite chez le chanoine allemand, un point aveugle, mais bon, nous en discuterons ensuite, et bien sûr, vous pouvez ne pas partager mon avis. Alors tout d'abord, le chanoine allemand qui s'adresse en particulier à un public traditionnel qui peut avoir du mal à recevoir la liturgie, qui peut être dérouté par la liturgie, alors telle qu'elle était voulue, et puis aussi telle qu'elle a été mise en œuvre. Hein, ce n'est pas, bon, c'est sans doute difficile de la mettre en œuvre et on s'y était forcé avec plus ou moins de bonheur. Donc, il s'adressait à cet auditoire et il entendait souvent dire, et comme nous pouvons encore l'entendre aujourd'hui, que la messe d'autrefois, c'était une messe où on avait le sens du sacré, qu'on avait perdu, qu'on aurait perdu dans la liturgie actuelle. Et une liturgie qui insistait sur la réalité de la messe comme sacrifice, alors que ça, pour certains, voilà, où la messe de Vatican II, c'était devenu un partage fraternel. Et donc on opposait une approche de l'Eucharistie comme sacrifice et une approche de l'Eucharistie comme repas. Or, ce que Chanoine allemand va souligner, mais ce n'était pas nouveau dans son enseignement, ça il l'a toujours fait. C'est que il ne faut pas opposer les deux, et il faut même dire que l'Eucharistie est d'abord un repas. Parce que justement, nous sommes appelés à partager la vie même de Dieu. Et ce qui nous est servi dans ce repas de l'Eucharistie, c'est la vie divine elle-même. Et que, bien sûr, elle se présentait à nous sous la forme que le Christ lui a donné dans sa passion, dans son sacrifice, mais le but même du sacrifice, c'est de nous introduire au banquet des noces de l'agneau. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, et c'est vrai que je pense même que les anthropologues seraient d'accord pour dire que pour souligner le lien entre le sacrifice et le repas. Alors, de quelle manière la liturgie de Vatican II renouvelle le regard qu'on peut avoir sur l'Eucharistie par les transformations qu'elle introduit dans les paroles et dans les gestes de la liturgie. Quant à l'Eucharistie comme repas, ou ce qui nous est servi, si je puis dire, c'est l'amour divin que nous devons partager. Le chanoine allemand insistait d'abord sur la transformation des rites de l'offertoire. Alors peut-être que si nous ne connaissions pas, ou si nous ne sommes pas habitués, si nous ne connaissions pas l'ancien rite, ou si nous ne sommes pas habitués à ce qu'on appelle aujourd'hui la forme extraordinaire du rite, avons-nous oublié ou ne connaissons-nous pas l'offertoire, le vetus ordo, me corrige Gilles, sans doute avec raison, enfin avec raison, L'offertoire du missel de Saint Pie V. Alors, les participants qui sont devant moi ont une feuille que je vous invite à regarder. Je vais m'efforcer de présenter les choses de la manière la plus claire possible pour les autres. Dans l'offertoire de la messe de Saint Pie V, bien sûr, il était dit à voix basse. Le célébrant offrait les hosties en priant à voix basse. Je repris les termes même d'un très bon missel, qui est le missel de l'ancien missel de Jonelle, hein, le missel dit de Jean XXIII, hein, parce que c'était juste au moment du concile. Et il faisait la prière suivante: Recevez, Père Saint, Dieu éternel de toute puissance, cette offrande sans tache que moi, votre indigne serviteur, je vous présente à vous, mon Dieu vivant et vrai, pour mes péchés, offenses et négligences sans nombre, pour tous ceux qui m'entourent, ainsi que pour tous les fidèles vivants et morts, qu'elles servent à mon salut et au leur pour la vie éternelle. Belle prière, hein, qui disait en latin, à voix basse. Ensuite, il bénissait l'eau qu'on lui apportait. Si je ne me trompe pas, mais là, le Père Drouin pourra le confirmer ou me corriger, je crois que ce geste de bénir l'eau, c'était en fait à l'origine le geste de bénir les gens qui apportaient l'eau, qui apportaient les offrandes, mais il n'y avait plus il n'y avait pas de procession d'offrandes, hein, tout se passait à l'autel avec le célébrant. Donc le célébrant bénit l'eau qu'on lui apporte ou qui se trouve dans la burette à sa disposition, il la mélange au calice en disant une prière, et il offre le calice avec les paroles suivantes: Nous vous offrons, Seigneur, le calice du salut, et nous demandons à votre bonté qu'il s'élève en parfum agréable devant votre divine majesté pour notre salut et celui du monde entier. Et puis ensuite, profondément incliné, il dit une prière où il exprime sa contrition et où il invoque l'Esprit Saint. Alors voilà comment se présentait l'offertoire dans la messe de Saint-Pie V. Nous connaissons, je pense pour la plupart d'entre nous, la forme que l'offertoire a prise aujourd'hui. Tout d'abord, il peut y avoir, il est souhaitable qu'il y ait, il y a parfois, une procession, hein, la procession des oblats, la procession des offrandes. Je souligne que le chanoine allemand y accordait beaucoup d'importance. Et que même avant la réforme liturgique, il avait introduit, je pense, pour les sœurs de la Sainte Vierge, la possibilité d'une procession des offrandes. Pour lui, c'était cette procession des offrandes, justement, elle exprimait la finalité donnée à toute notre activité humaine, à nous déposons hein, tout ce que nous faisons au pied de l'autel, pour que le Seigneur s'en saisisse et pour qu'il en fasse son corps et son sang. Et le célébrant, vous savez, vous connaissez sans doute les prières d'offertoire, dit: Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Alors le chanoine allemand aimait rapprocher ces paroles d'un commentaire de Matthieu de l'époque carolingienne qui comprend ces paroles en latin elles expriment bien de façon plus simple que les paroles de l'ancien rite. Non plus, elles n'insistent plus sur les péchés, les offenses que l'Eucharistie répare, mais elles ont une dimension cosmique hein, qui était très, très aimée par le chanoine allemand. Et alors, il peut y avoir de la musique, il peut y avoir un chant, ça peut se passer en silence, mais ça peut aussi être dit à haute voix. Vous savez qu'il y a un dialogue avec l'assemblée. Le deuxième point, qui insiste sur l'Eucharistie comme repas dans le nouveau rite, c'est le changement introduit avec les rites de communion. Alors là aussi, nous ne savons pas, nous avons peut-être oublié que jadis, le Paternoster était récité à voix basse jusqu'au Mais libère-nous du mal. Aussitôt après, il y avait la fraction de l'hostie, et puis les rites de paix, à savoir le mélange d'un fragment d'hostie et du calice, l'Agnus Dei et des prières, et le baiser de paix qui était à l'époque, dans les messes solennelles, réservé au clergé. Aujourd'hui, nous savons que notre Père est récité par le peuple entier, qu'il est développé ensuite par les prières qui suivent, délivre-nous de tout mal, etc. Qu'il y a un dialogue entre le célébrant et l'assemblée, qu'il y a le signe de paix qui est échangé avec l'assemblée tout entière, et alors la fraction du pain est un fragment introduit dans le calice pendant l'Agnus Dei. Et voilà le moment de la communion. Alors, dans l'ancien rite, le prêtre communiait, ensuite les fidèles, c'est toujours le cas. On chantait donc. Non, enfin voilà, c'était le moment de la communion, et le prêtre disait voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, et on répondait Seigneur, je ne suis pas digne. Ensuite suivait la communion, et on donnait la communion aux fidèles. C'est le prêtre qui parlait, le fidèle ne disait rien. Hein. Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam, que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde ton âme pour la vie éternelle. Amen. Mais c'était le prêtre qui disait Amen. Hein. Dans le rite renouvelé par le Concile Vatican II, le prêtre présente le corps du Christ à l'assemblée, avec les mots suivants, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Et le chanoine allemand accordait tellement d'importance à ces paroles qu'il a écrit un article là-dessus pour défendre le rite critiqué par certains. Mais bien sûr, il s'attachait à ces mots. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau qui avait été introduit. Et l'article qui a été publié à l'époque avait été d'ailleurs signalé à l'attention de Paul VI, qui avait fait savoir qu'il en était très, très heureux. Deuxième point, après l'insistance sur l'Eucharistie comme repas, c'est l'Eucharistie comme effusion de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit du Père et du Fils, c'est-à-dire comme consommation de la vie trinitaire. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que le chanoine allemand insistait beaucoup pour dire que ce n'est pas n'importe quel esprit, hein, c'est l'esprit du Père et du Fils, c'est l'effusion donc de l'esprit du Père et du Fils, c'est la vie même de la Sainte Trinité qui est ainsi partagée dans l'Eucharistie. Alors là, j'ai moins de choses à dire, mais le chanoine allemand lui-même renvoie à la place de l'Esprit Saint dans les nouvelles prières eucharistiques, hein, qui à la fois intègrent un héritage qui vient de l'Orient chrétien, avec le génie romain qui structure davantage les choses, dirait le chanoine allemand, mais qui mentionne explicitement ce que ne faisait pas l'antique canon romain, qu'on peut toujours célébrer dans la liturgie, la prière eucharistique numéro 1, mais qui mentionne explicitement l'Esprit Saint, le rôle de l'Esprit dans l'Eucharistie. Troisième point, j'en ai plus pour très longtemps, rassurez-vous, troisième point, c'est la manière dont l'Eucharistie nous place dans l'attente de la parousie, c'est-à-dire de la venue du Seigneur Jésus. Et c'est donc la manière dont l'Eucharistie nous situe dans l'histoire du salut. Le chanoine allemand insiste, et je trouve que c'est très intéressant, au moins pour les personnes comme moi qui n'ont pas connu l'ancien rite, d'apprendre, ou pour les personnes qui l'ont connu ou qui le pratiqueraient encore, de se rappeler la différence entre le rite consécratoire dans l'ancien rite et le rite consécratoire sous la forme que lui a donné le missel de Paul VI. Dans l'ancien rite, le prêtre disait, toujours à voix basse, pour quand il consacrait le vin, prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, le mystère de la foi, qui sera versé pour vous et pour la multitude des hommes en rémission des péchés. Toutes les fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Alors j'étais peut-être un peu vite quand j'ai lu les paroles pour les personnes qui n'ont pas les feuilles sous les yeux, mais vous avez entendu que l'expression mystère de la foi est intégrée dans les paroles de la, était intégrée dans les paroles de la consécration. Mais vous savez que, elles ne sont pas dans les récits de l'institution tels qu'ils nous sont transmis par les évangiles et par Paul. C'était une raison pour de sortir l'expression mystère de la foi des paroles de la consécration. Mais cependant, on n'y a pas renoncé, et Charles Allemand insiste beaucoup sur l'Eucharistie comme mystère, l'Eucharistie comme mystère de la foi, mais on a, après la consécration, introduit ce qu'on appelle l'anamnèse, hein, où après une acclamation du prêtre, l'assemblée peut répondre à différentes formules, mais le contenu globalement est le même. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Mais c'est vrai qu'il faut y réfléchir, ça nous semble tellement aller de soi, hein, mais qu'au cœur même de l'Eucharistie, nous disions, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà, donc l'Eucharistie située dans l'histoire du salut avec sa dimension eschatologique et puis notamment l'attente de la parousie. Et puis bien sûr, l'Eucharistie, au-delà même de l'histoire, elle nous introduit dans la perspective de la vie éternelle et donc dans l'attente de la vision bienheureuse que les prières eucharistiques nouvelles mentionnent à plusieurs reprises, par exemple dans le memento des défunts de la prière eucharistique 2, où on demande au Seigneur d'accueillir les défunts dans la lumière de ton visage et dans l'intercession plus générale qui suit pour toute l'assemblée, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Donc, quatrième point que je pense le chanoine allemand montre de façon très très claire, très lumineuse. Alors je rappelle les quatre points avant de donner la parole à Gilles. Le premier point était celui de l'Eucharistie comme repas. Le sacrifice est pour le repas. Le deuxième point, c'est l'Eucharistie comme effusion de l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils, et donc comme introduction dans la vie trinitaire. Le troisième point, c'est le fait de situer l'Eucharistie dans l'histoire du salut, en particulier dans l'attente de la parousie. Et le quatrième point, c'est la grande perspective de la vie éternelle, comprise comme vision bienheureuse qui est mentionnée à plusieurs reprises dans les prières eucharistiques. Je vous ai annoncé, mais je vais m'arrêter là. Bon, le plus important était d'insister sur l'apport du chanoine allemand, sur, à mon sens, quelque chose qui est comme un point aveugle chez lui. J'en ai parlé déjà en groupe. J'y reviendrai éventuellement après notre échange avec le père Drouin, auquel je donne la parole.
Alors, merci, Père Gilles, tu as tout dit, hein, tu as tout dit sur ce beau petit livre. Voilà, moi je vais poser un regard de liturgiste sur cet ouvrage. Alors, le premier point par rapport à ton introduction, je me dis peut-être que toute ta précision que tu as fait sur la contemplation, peut-être que malgré tout, le chanoine allemand, parce que rien ne le prédisposait finalement à s'émerveiller de cette liturgie rénovée, on a vraiment l'impression qu'il pose un regard vraiment contemplatif, je ne dis pas sur la liturgie rénovée, mais sur les textes liturgiques tels qu'ils lui sont donnés. Et ça, je crois que c'est peut-être une des clés de compréhension, hein, de cette posture un peu étonnante, parce que, évidemment, pardon, mais pour un thomiste de stricte observance comme il l'était, dans les conditions qui étaient les siennes, on aurait pu s'attendre plutôt à une vraie réticence par rapport à cette liturgie donc de Paul VI. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors moi, ça m'a surpris, hein, parce qu'il a un vocabulaire pétri de théologie. Il n'est pas pétri de nouvelle théologie, hein, il est pétri de théologie thomiste traditionnelle et tout. Et pourtant, eh bien, il s'émerveille devant la réforme liturgique. Donc, alors que certains de ses proches disaient qu'il était assez proche de Maritain, mais Maritain était très réticent vis-à-vis de la réforme liturgique. Donc, on voit bien que c'est un lieu qui n'a pas été, je fais une petite parenthèse, la réforme liturgique, au départ, n'a pas a été assez, non pas la réforme liturgique, mais la réception de la Constitution sur la Sainte Liturgie. Vous savez, c'est le premier texte qui a été publié par le Concile. La réception a été très positive. Monseigneur Lefebvre a voté pour la Constitution pour la Sainte Liturgie. Et plutôt, les tensions, elles se portaient sur des questions comme la liberté religieuse, comme le dialogue interreligieux, mais la liturgie est très vite devenue, eh bien, comme l'étendard de crispation qui n'était pas d'abord liturgique. Et on voit bien que la posture du chanoine, la posture, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais l'approche du chanoine allemand est intéressante parce qu'il aurait pu, il n'est pas allé dans cette direction. D'ailleurs, un Louis Bouilhet est allé lui aussi, pas au début, mais à la fin de sa vie, Bouilhet qui n'était pas thomiste, hein, mais est allé dans cette posture de résistance vis-à-vis ou de réticence vis-à-vis la réforme liturgique. Alors, c'est d'autant plus étonnant, et c'est ce que, alors, ton introduction m'a éclairé, parce que si c'est un critique de l'anthropocentrisme, c'est vrai, tu l'as dit d'une certaine manière, mais une des critiques quand même assez fortes, eh bien, de la liturgie de Paul VI, ça serait justement d'être assez horizontal. Je fais allusion à un beau petit livre d'un de mes collègues, François Cassin-Jenna-Trévedy, qui est un moine, hein, il a écrit récemment Le paysan de Dieu, parce que maintenant c'est un moine ermite sur les plateaux du Cézallier, mais il a commencé moine à Trieur, donc selon l'ancienne liturgie, et puis ensuite il a été moine à Ligugé, il est passé de l'un à l'autre, et il a écrit Teijitur, où il montre, on peut pas être d'accord, mais il parle de deux ethos, un ethos plutôt transcendant pour la liturgie de Saint-Pie V, hein, un ethos qui qualifie de chrysostomien, et bien un ethos plutôt horizontal qui qualifie d'augustinien, c'est là pour la liturgie de Paul VI. Et là, je trouve que ça, tu l'as dit, mais c'est quand même un coup de génie du chanoine allemand, je trouve, hein, c'est de ne pas, comme tu le disais, opposer repas et sacrifice. Ouais, ça c'est dans les années 70, j'ai servi la messe à Monseigneur Lefebvre. Je ne sais pas si j'ai vu, je l'ai dit, hein. Quand j'étais gamin à Nancy, ma famille à un moment, donc je voyais, c'était les grands j'étais adolescent, mais c'était les grands débats de l'époque. Non seulement ils ne l'opposaient pas, je travaillais beaucoup dans le domaine de l'architecture religieuse, vous savez, on opposait, alors est-ce qu'on va faire un autel table ou un autel sacrificiel, hein? Il y a eu ces débats à cette époque-là, mais, et ça c'est assez génial, je trouve, c'est-à-dire qu'il ordonne la dimension sacrificielle à la finalité du repas, mais en tant que participation à la vie de Dieu. Et ça, c'est quand même, je trouve que c'est assez astucieux, parce que très souvent, on dit, mais non, il ne faut pas poser la question, est-ce que c'est un repas et un sacrifice? C'est les deux, mon capitaine, si vous permettez. Mais lui, il ne dit pas c'est les deux. Il dit, c'est un sacrifice parce que il est proche de Bouilhet, hein, sur ce plan-là, dans L'Orité de l'Homme, parce que le sacrifice vise à la participation à la vie de Dieu. Et ça, me semble-t-il, je ne le vois pas, je n'en vois malheureusement peut-être pas suffisamment l'héritage. Parce que, par exemple, alors c'est le liturgiste qui parle, vous savez, on a eu récemment la troisième édition du Missel romain, pas la nouvelle traduction, mais le nouveau Missel, et c'est vrai qu'on a réinjecté une dimension sacrificielle, mais on est toujours dans cette. Vous voyez, comme s'il y avait un curseur. Alors que avec le chanoine l'allemand, c'est pas l'un ou l'autre, on ne place pas le curseur, c'est l'un ordonné à l'autre. Et ça, je trouve que c'est assez astucieux. Le deuxième point que tu as évoqué également, c'est mais qu'on voit plutôt à la fin de ce petit ouvrage, c'est que il est comment dire, il est assez augustinien, je trouve. Alors, il ne l'était pas, mais en ce sens que, vous savez, pour Augustin ne sépare jamais la dimension eucharistique, en gros, le Saint-Sacrement, la présence réelle, de la dimension ecclésiale. Il distingue, mais il ne parle jamais de l'un sans l'autre. Hein? Alors que c'est vrai que dans la tradition occidentale du deuxième millénaire, on a vraiment focalisé quand même plutôt sur le Saint-Sacrement, hein, sur la dimension sacramentale, eucharistique. Alors que là aussi, le chanoine l'allemand, à la fin, eh bien, et ça, c'est pour lui un des mérites de la réforme liturgique, il dit bien que le sacrifice qui correspond à une nécessité anthropologique, là, il est thomasien, je pense, hein, bon, l'homme, pour rendre un culte à Dieu, a besoin du sacrifice, mais qu'il a nécessairement un épanouissement communautaire, et que la communion à Dieu, elle ne se fait que de manière communautaire et pas personnelle. Et pas uniquement personnel. Et là, il est augustinien. Alors, je pense qu'il n'est peut-être pas augustinien, et vous savez que la réforme liturgique a beaucoup insisté sur la dimension communautaire, pas simplement de l'Eucharistie, mais privilégiant. Le Concile dit, dans tous les cas, on privilégiera la célébration communautaire des sacrements à leur célébration strictement individuelle. Ça a été globalement reçu, sauf pour la confession. J'ai toujours la dimension individuelle. Donc ça, c'est un peu un deuxième point que je trouve quand même extrêmement intéressant. Avec un vocabulaire thomiste, eh bien, on a finalement, on redécouvre une théologie du premier millénaire. Hein. Et puis, alors, deux autres petits points. Alors, tu as évoqué l'offertoire. Dans le nouveau rite, non, dans le nouveau rite, dans le rite de Paul VI, eh bien, on ne parle plus d'offertoire, on parle de présentation des dons. Alors, j'ai trouvé intéressant de ce que tu disais sur le fait qu'il faisait des processions d'offertoire. Vous savez que c'est une des grandes critiques du monde de la mouvance traditionnaliste par rapport à la réforme liturgique, dont on considère que l'offertoire est quelque chose, selon l'offertoire réformé serait relativement faible, entre guillemets, hein, parce que là, tu as dit, mais notamment par la suite, la présentation des dons avait une dimension plus sacrificielle, là aussi, dans l'ancien rite. Et je pense, et quand on lit les rubriques du nouveau rite, entre guillemets, un offertoire, selon le rite de Paul VI, ne prend tout son sens que s'il y a une procession des offrandes. Et je pense qu'un offertoire sans procession des offrandes, eh bien, c'est une espèce d'entre-deux entre la liturgie de la parole et la prière eucharistique. Et vous savez que très souvent, ben, la procession des offrandes, elle est soit réduite de la crédence à l'autel, voire du bord de l'autel au centre du corporal. Donc, c'est une micro-procession des offrandes. Je le dis quand même, mais je suis dans un diocèse, alors, pas de banlieue, un diocèse d'Évry. Nos frères africains ou antillais ont une trace propre. De faire des processions des offrandes qui ont vraiment du sens. Hein. Où justement, en plus de la dimension cosmique que tu soulignais, eh bien, est mise en œuvre. Je fais encore une petite, si tu permets, hein, une petite, non pas une petite parenthèse, mais cette mise en œuvre, c'est une reprise de prière juive. Hein, quand je le dis à l'hôtel, je n'ai pas à les lire, mais quand je suis en conférence, j'arrive, je n'ai pas les formules en tête. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tes dons. Voilà, nous avons reçu de ta bonté ce pain et ce vin, fruit de la terre, oui, faut quand même, et du travail des hommes. C'est quand même un lieu, c'est une conception, ça relève d'une conception irénéenne, de Saint-Irénée, de l'Eucharistie, hein, qui intègre la dimension cosmique, de la dimension de la création. Façon extrêmement forte, et dans une période de sensibilité écologique, c'est un lieu liturgique important pour une théologie de la création, me semble-t-il. Donc, je fais une parenthèse, mais c'est un lieu important et qui, à mon avis, est à mettre en œuvre avec soin. Et puis, comment? Mais non, mais alors, matérialiste, on bénit Dieu, on bénit Dieu, mais vous savez. Mais alors, si je n'avais pas prévu d'aborder tout de suite, il y a un très beau texte du pape François, hein, qui l'a fait sur la liturgie, Desiderio Desideravi, dans lequel, alors c'est du pape François, alors là, c'est pas un langage théologique rigoureux comme le chanoine l'allemand, que le pape François me pardonne, mais il a une formule assez extraordinaire, c'est pas matérialiste, pas du tout matériel. Le pape François dit, non pas à propos de l'Eucharistie, mais à propos du baptême, que quand Dieu a créé l'eau, il pensait au baptême. Et je pense que c'est absolument juste. C'est-à-dire qu'il donne, c'est-à-dire c'est la sacramentalité ici, eucharistique, ou dans le baptême baptismal, qui donne le sens profond de l'eau transfigurée par la puissance de la mort et de la résurrection du Christ. Et les Orientaux sont beaucoup plus forts que nous sur ce plan-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est-à-dire que la vérité de l'eau, eh bien, elle est dans l'usage, même pas dans l'usage, mais elle est baptismale dans l'usage que la sacramentalité en fait pour donner la vie de Dieu. Et donc, c'est à ce niveau-là, à mon avis, qu'il faut le prendre. Hein. Alors, vous me tendez la perche, je vais raconter une anecdote. Je suis d'origine lorraine et rurale. Et mon père, qui était un vieux paysan, il était jeune, mais je l'ai connu, donc je n'ai pas toujours connu vieux, qui était un chrétien, vraiment un chrétien, un peu taiseux, un paysan lorrain, c'est pas trop, je ne tiens pas de lui, là, c'est pas trop bavard, mais il semait du blé, il semait de l'orge, et quand il faisait la moisson du blé, eh bien, ce n'était pas la même chose. C'est-à-dire que pour lui, et il n'est pas besoin de nous le dire, et on en a parlé avec ma sœur, c'était clair, que la vérité du blé, c'était l'Eucharistie. Et c'est-à-dire que, et je pense que papa, pardonnez-moi, mais il avait un regard contemplatif sur le blé. C'est-à-dire qu'il voyait le blé, eh bien, avec les yeux de Dieu, comme lieu. Donc c'est pas matériel au sens, c'est-à-dire, et on peut voir toute la création comme ça. On peut voir toute la création. Si vous êtes, je dis ça parce que si vous vous intéressez à ces questions, il y a un très beau petit opuscule d'Olivier Clément, Le Christ terre des vivants, et le monde orthodoxe à une théologie de la création enracinée dans l'Eucharistie. Et il regarde la création, eh bien, comme, alors non pas transsubstantiée, mais transfigurée par la puissance de résurrection jaillie du tombeau du Christ mort et ressuscité. Vous voyez? Et je pense que c'est ça. Alors évidemment, on peut, si on le prend de façon, pardonnez-moi, je ne dis pas ça, mais un peu superficielle, mais c'est à ce niveau de profondeur, personnellement, hein. Alors peut-être que la formule est un peu elliptique, peut-être qu'elle est un peu elliptique, mais je pense qu'elle porte en germe ce rapport contemplatif à la création et regardant le fond de l'être, hein, la vérité de la création comme étant appelée à être transfigurée. Troisième petit point, puis après on est par rapport beaucoup plus rapidement. Alors il est vrai. Mais ça, moi, je ne connaissais pas l'œuvre du chanoine l'allemand. Il est vrai qu'il souligne énormément la dimension trinitaire des nouvelles prières eucharistiques. Il est assez, comment dire, il a un regard là, peut-être, non pas naïf, mais il en dit presque. Il voit la Trinité plus fortement. Elles le sont, Trinitaire, c'est objectivement. Mais par moments, quand il voit le rôle de la Trinité dans l'incarnation et les prières eucharistiques, je crois que, bon, on voit bien, ça, je ne veux pas dire qu'il plaque sa spiritualité sur les prières eucharistiques, mais il est vrai, tu l'as dit, mais que, pour le coup, il y a eu quand même une évolution, une double évolution à Vatican II, vous savez. Déjà, avant, on avait une seule prière eucharistique, hein, le canon romain, hein, le vénérable canon romain, qui n'avait pas d'épiclèse, ce qu'on appelle, vous savez, c'est l'invocation de l'Esprit Saint. Quand on prie à Dieu, on fait comme ça, quand on raconte une histoire, on fait comme ça, et quand on invoque l'Esprit Saint, on demande à Dieu d'envoyer l'Esprit Saint, on n'invoque jamais l'Esprit Saint dans la liturgie, on demande au Père d'envoyer l'Esprit du Christ, hein, sur les dons. Mais il est vrai que les nouvelles prières eucharistiques, parce qu'on était à une époque où on avait retrouvé de façon émerveillée les prières eucharistiques de l'Orient et les prières eucharistiques anciennes, ont toutes une épiclèse explicite sur le pain, sur le vin et sur l'assemblée. Une double épiclèse explicite. Pour que le pain et le vin soient transformés en corps et sang du Christ et pour que, eh bien, nous entrions dans le grand corps dont le Christ est la tête et dont nous sommes les membres. Et c'est vrai que c'est une. Ça, pour le coup, le chanoine l'allemand a raison. Il y a une grande injection pneumatologique, si j'ose dire, dans les prières eucharistiques. La recherche, je crois, contemporaine sur le canon romain. Eh bien, finalement, réévalue le canon romain et pourrait, alors ça c'est vraiment, je ne veux pas être trop, mais parce que le chanoine l'allemand, et c'est le dernier point, dit que le canon romain est très sacrificiel, c'est vrai, hein, mais lui trouverait ce qu'on appelle en langage technique un déficit eschatologique, c'est-à-dire insistant beaucoup trop sur l'action humaine et pas sur le devenir donc, de l'humanité. Donné par grâce par Dieu. On a eu une thèse à l'Institut supérieur d'Ithionjy récemment qui montre finalement que le canon romain, alors qu'il n'est pas du tout trinitaire, ça c'est vrai, hein, mais qu'il a une forte dimension eschatologique. C'est-à-dire que la première partie parle de l'Église de la terre et la première partie, la seconde, de l'Église du ciel. C'est-à-dire que vous voyez les réinterprétations. Le chanoine l'allemand écrit quand même à une époque où le canon romain était mal vu. Hein? On ne le comprenait plus, on trouvait que par rapport à l'Orient, il avait un déficit pneumatologique, ce qui est vrai. On ne comprenait, à mon avis, plus très bien sa structure. On disait que c'était une structure, mais je ne vais pas entrer dans le détail, composite, un peu de briques et de brocs. Hein, on répète les choses, on n'aimait pas les répétitions à l'époque de la réforme liturgique. Et puis, dernier point, même on pourra échanger après, mais ça, c'est un peu technique en théologie de la liturgie. Mais on était dans une époque où on était absolument émerveillé par la redécouverte des grandes prières eucharistiques de l'Orient, et qui sont des prières, alors Saint Jean Chrysostome, Saint Jacques, Saint Basile, etc., qui sont des prières de structure profondément trinitaire. Alors évidemment, ça a émerveillé le chanoine l'allemand, vous savez, avec l'action de grâce, hein, l'épiclèse, le récit de l'institution, et puis ensuite les intercessions et la doxologie. Et on se rend compte actuellement que ces prières, elles sont le témoin d'une époque. Alors, vraiment, alors là, pour le coup, je pense que le texte a peut-être un peu vieilli à travers ça, mais il n'a pas vieilli spirituellement, mais historiquement, elles sont le témoin d'une époque, le 4e siècle, de querelles sur la divinité du Saint-Esprit, où elles ont une structure trinitaire et surtout une pneumatologie accentuée parce que la question de la divinité du Saint-Esprit était remise en cause. Et le canon romain est arrivé dans sa structure actuelle plus tardivement, alors qu'en Occident notamment, la question de la divinité de l'Esprit-Saint ne se posait plus. Mais ça, c'est, vous voyez, c'est un peu de la technique, mais le liturgiste que je suis ou que j'essaye d'être, eh bien, relie finalement. Et c'est normal, on ne peut pas reprocher, le chanoine l'allemand est un homme de son temps. Je ne suis pas sûr qu'il dirait ça actuellement. Je pense même qu'aujourd'hui, il trouverait une dimension eschatologique très forte dans le canon romain. Parce que le canon romain, il y a quand même, je ne suis pas là pour le défendre, il n'a pas besoin de moi, le brave canon romain. Mais le canon romain a quand même une grâce inouïe, hein, c'est qu'il cite des prophètes de l'Ancien Testament, des patriarches, hein, et puis tous les saints. C'est-à-dire que le canon romain manifeste la dimension de la communion des saints comme aucune autre prière. Il nous fait entrer dans la communion des saints. Donc avec quand même une dimension eschatologique assez forte. Vous voyez? Mais voilà, ça c'est un peu, peut-être des points un peu techniques, je veux dire. Toujours est-il, oui, que. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci à lire ce texte. Et puis, je terminerai vraiment là-dessus. Justement, parce que venant d'où venait le chanoine l'allemand, on ne s'attendait pas à ce type de texte. On s'en serait attendu plutôt à un texte un peu critique. Après, alors, il y a plusieurs choses. Après, il y a la question de la mise en œuvre. La question de la mise en œuvre. Parce que c'est une des limites, non pas du texte, hein, mais c'est que. Le chanoine s'émerveille devant les formules des textes qui sont admirables, c'est vrai. Je pense que certains textes de la réforme liturgique sont vraiment admirables, tant des créations que des adaptations et tout. Mais après leur mise en œuvre, hein, alors, et finalement, mais ce n'est pas l'objet de ce livre, mais dans la querelle. La longue crise traditionnaliste et tout, c'est pas tant les textes qui sont en cause que l'éthos célébratoire, que la mise en œuvre, que la place du silence, que la musique, que toutes ces questions-là. Et là, c'est autre chose. Lui, et il a raison, donc il a raison, c'est son projet, il travaille sur les textes. Dans ce petit livre, là, je terminerai vraiment, dans ce petit livre, il y a aussi un très beau chapitre sur. Je veux dire l'émerveillement, mais que je partage à complet du chanoine l'allemand sur la préface de l'Avent et la reconfiguration de l'Avent par la réforme liturgique, où l'Avent, quand même précédemment, était quasiment exclusivement une préparation à Noël, et où là, l'Avent glisse de l'attente du retour du Christ à la fin des temps vers l'attente de celui qui vient à Noël. C'est-à-dire qu'on attend celui qui est déjà venu. Et là, il y a une. Je ne sais pas si je pourrais développer, mais La manière dont l'avant est construit dans les prières, mais aussi dans le lectionnaire, dont il ne parle pas, parce qu'il y a le lectionnaire également, le lectionnaire de l'avant est admirable, eh bien, l'avant de la réforme liturgique nous situe dans cet entre-deux dans lequel nous sommes, où tout nous est donné par l'incarnation rédemptrice et tout reste à faire par le retour du Christ. Et l'avant est une pédagogie pour habiter le temps chrétien. Et ça, le chanoine l'a vu, très nettement, très, très nettement. Et ça, pour le coup, l'avant précédent, moi, je peux vous assurer que c'était un peu, oh, c'était un carême un peu édulcoré, si j'ose dire. Ah, il fallait un peu faire pénitence, je suis un peu critique, hein, mais pour se préparer à Noël. Et c'est sûr qu'on a retrouvé une tradition beaucoup plus profonde avec la réforme liturgique. Voilà quelques remarques, peut-être un peu incoatives et mélangées. Hein, oui.
Merci, on t'écouterait encore longtemps et tu as mis magnifiquement en valeur le texte du chanoine allemand avec ta science et ton enthousiasme. Merci beaucoup.